Dov, les Koulam, Erev Dov, les Koulam, pour tous ceux qui se posent encore la question de quelle page on est, eh bien, ça dépend évidemment de l'édition. Nous, nous sommes dans le... Ah ben non, mais évidemment, quelle idée ! Quelle idée ! On s'est trompé de fromage, forcément.
On commence ?
Non, c'est bien, voilà. Top. Donc, heureux Erev Tov, les Koulam, et nous sommes des Sefer Shemot au chapitre... T'as dit Yudalet ? Eh bien, très bien. Et quel pasouk ?
On s'est arrêté au 3.
Au 3, il dit 3. Yalla.
Gimel.
Pasouk Gimel.
On peut revenir
si XIV. Le chapitre. Ah, le chapitre, oui, effectivement. XIV, hein, croix V bâton. Ou croix bâton V, pour être exact. Donc, nous sommes au chapitre Yud Dalet, verset Gimel. Alors, Yatsanon Mitzrayim, ça y est, on est sorti d'Égypte, tout va bien. Et on est arrivé au pied de la mer. La mer qui n'est évidemment pas rouge. D'ailleurs, mais ça, on a déjà expliqué maintes et maintes fois. On ne va pas vous faire l'affront de réexpliquer. Donc, on est au bord de Yamsouf, de la mer des joncs, des roseaux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vermar, Paro, Livnei Israël, Nevuchim, Hembaret. Sagar alehem amidbar. C'est-à-dire qu'on fait référence, on vous rappelez que Paron, c'est ou Paro ou Pharaon, Paron c'est pas possible. Paro, vous vous rappelez qu'il a fait venir des accompagnateurs avec nous pour être bien sûr qu'on fait ce qu'il faut, et finalement, eh bien, on lui fait un rapport, Nevorim hem baaretz. Ils savent pas où ils vont. Ils sont devant la mer, ils sont paumés. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça pas où ils vont ?
Le retour.
Ben, non, mais parce que... Les Égyptiens ne connaissent pas la destination. Mais une chose est sûre, c'est que la destination, c'est pas la plage.
Ouais.
Et voilà. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ne savent pas, eux, les Égyptiens, qu'ils doivent partir en Eretz Israël. Ils ne savent pas non plus vraiment ce que c'est à Arazé. Okay, servir Dieu dans le désert, ils ne savent pas où c'est exactement. Mais une chose est sûre, c'est pas au bord de la mer. Donc le fait qu'ils arrivent au bord de la mer et qu'ils s'arrêtent là, fait dire aux Égyptiens, ils savent pas où ils vont. Ok ? Vechizakti et lev paro veradaf achareem, vechabeda be paro bechol chelo, veyadou.
Pardon ?
Quoi ?
Oui. Le pharaon a parlé de l'Israël ?
Pas du tout. Alors, vous savez quoi ? Venez, on essaye de. Excusez-moi, on va revenir au pasouk Aleph pour que vous savez, on se rappelle bien qui parle à qui. C'est-à-dire, Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Ça c'est bon ? Daber El Bene Israël, Veyashuv Veyachanu Lifnepi Achirot, Benidol Ben Ayam, Lifne Baal Sefon, Mechochu Tachanu Alayam. C'est Dieu qui parle à Moshe et qui lui dit, dis au Bene Israël qu'on va s'arrêter devant la mer, devant Baal Sefon, El Pi Achirot. Ok ? Ve'amar paro livene Israël, nevorim hem ba'aretz, sagar alehem amidbar. Mazé, ve'amar paro livene Israël, c'est non pas il a dit ô béni Israël, mais il a dit à propos des béni Israël. Ils sont perdus. Et là, c'est Dieu qui parle à Moshe, qui dit ve'chizakti et lev paro ve'radaf acharehem, ve'ichabeda be'paro ubechol chelo. On est dans le dernier acte pour dévoiler Dieu aux Égyptiens. On a dit, depuis le début de l'histoire des dix plaies, il ne s'agit pas de dévoiler Dieu aux Israël, il s'agit de dévoiler Dieu aux Égyptiens.
Pas
de quoi, les Égyptiens eux-mêmes
L'Égypte en elle-même.
L'Égypte, elle n'a jamais abandonné l'idolâtrie.
Oui, elle n'a jamais abandonné l'idolâtrie.
Non.
Bon, là, on parle de l'humanité quand on parle de l'Égypte.
Non.
D'accord. Mais l'humanité, elle n'a pas abandonné non plus.
À l'époque de la sortie d'Égypte. C'est ça que tu veux dire?
Je veux dire tout ce qu'ils donnent comme mal pour que ce soit reconnu, mais finalement.
Ah, mais attention, non, slicha. L'objectif n'est pas ici, d'abord, dans un premier temps, qu'ils se convertissent au monothéisme. L'objectif, c'est que l'Égypte, en l'occurrence, sache qui est Hachem.
Oui, mais à partir du moment où on sait...
Eh bien, les Atlantes, ça va prendre encore 500 ans. Ça va prendre encore 500 ans entre le moment où ils vont découvrir Dieu et le moment où ils vont arrêter l'idolâtrie. Mais il faut d'abord un point de départ. Ça, donc là, le projet n'est pas qu'ils abandonnent l'idolâtrie, mais le projet, c'est qu'ils connaissent Dieu. Donc, dans un premier temps, c'est ils vont connaître Dieu, mais ils vont connaître aussi d'autres trucs. Ok ? Ah ben non ! Ah ben si ! Là, c'est sûr ! Là, une fois que Dieu se révèle à eux par le coup de bâton, ben, ils le connaissent.
Oui, mais personne ne leur donne l'instruction.
Ah non, non ! Il ne s'agit pas encore de leur faire dire « Comportez-vous de telle ou telle façon ». Pas du tout. Là, il s'agit simplement d'une révélation. Agab, pour Mahamad al-Sinaï, je dis des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas encore étudiées, mais lorsqu'il y aura le dévoilement au Mont Sinaï, on ne saura pas non plus quoi faire à ce moment-là. C'est-à-dire, mais il y a une dimension de révélation, après, il y aura une dimension de mitzvot. D'accord ? Donc, Pharaon va nous poursuivre. Pharaon va nous poursuivre. Zéro. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרו ועבדיו אל עם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעבדנו. Donc voilà, Pharaon est mis au courant, et là, Pharaon dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi avons-nous libéré les Hébreux, les enfants d'Israël? ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו, ויחזק השם את לב פרעה, מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. פרעון, פר, אנוטרו פורסוויט. Tout à fait, il a emmené des gens pour nous accompagner, des quêteurs, des guesteurs, si tu veux, pour savoir qu'on fait bien. Mais là, ça y est, il a dit, ils sont paumés, ils vont pas là où il faut, on va les rechercher. Mais la question sur laquelle nous étions arrêtés la semaine dernière, tout cela ce n'était qu'un previously dans notre étude du livre de Shemot, car la semaine dernière on s'est arrêté sur la question, mais attendez, on a mis tellement longtemps, on a mis trois cours pour comprendre ce que c'était les diplés, et comprendre qu'à la fin, Pharaon a été convaincu, ce n'est pas seulement okus pokus, si la mamache était convaincue, puisqu'il dit « uberartem gam oti », il voit dans le peuple juif une source de bracha. Comment ça se fait que là maintenant, il retourne sa veste trois jours plus tard? Alors, est-ce qu'il s'agit simplement « Oh là là, il n'y a plus personne pour préparer mon thé le matin ?» Vadaï chez l'eau. Bien sûr que non.
L'Égypte, sans les Juifs, c'est plus l'Égypte.
Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est pas que l'Égypte sans les Juifs, c'est plus vraiment l'Égypte. Non, non, c'est pas ça. Et là, on a dit, Pharaon, c'est quelqu'un de grand. Alors, il fait du mal, mais il est grand. Et on a dit qu'il était intellectuellement honnête. Et que donc, lorsqu'il vérifie quelque chose et qu'il est convaincu, il est convaincu. Aval, effectivement, elle a été convaincue dans les dix plaies. Mais que sur une dimension. Et là, il va falloir qu'on comprenne une chose très importante. La suite des versets va nous aider à le comprendre, mais je le dis dès maintenant, tout de suite. Pharaon est un Talmid Chacham, bien évidemment. Ah oui, Pharaon est donc quelqu'un qui a fondamentalement étudié la lettre 555 du Rav Kook.
Ah oui.
Ah oui, bien sûr. Quoi ? Y aurait-il ici un anachronisme qui te dérangerait? Chas v'shalom. Ah, il est évident que ce que le Rav Kook nous enseigne dans la Higueret Takana est quelque chose qui est vrai avant que le Rav Kook l'enseigne. Donc, Pharaon le savait également. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas dans la Higueret Takana, dans la lettre 555, qui est pourtant le Rav Kook n'était pas tunisien. Et c'est l'une des lettres les plus importantes du Rav Kook. Il y a, à son époque, un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Yaakov Ritbal. Il habite à Tzfat. Il est venu de Lituanie et il arrive à Tzfat. Il est un grand Talmid Chacham, évidemment. Il a écrit un commentaire sur le Talmud à Yerushalmi, Mare Panim, pas un petit joueur. Et il a été, dans sa jeunesse, un des élèves du Rav Kook. C'est-à-dire que lorsque le Rav Kook était à la yeshiva de Volozhin, eh bien, il donnait des petits enseignements. Il était Ram. Il n'était pas encore Rav. Mais il était un petit peu comme ça, et Rav Mechaner. C'est-à-dire qu'il enseignait un peu à la yeshiva. Et Rabbi Yaakov Ritbal faisait partie de ces jeunes qui étudiaient chez le Rav Kook. Bon, le Rav Kook est devenu le Rav Kook. Le Ritbal est devenu un des rabbins de mainstream de son époque, à savoir fondamentalement anti-sioniste, du moins anti-chaloutsim, anti-lessioniste chilonim, qui était en train de construire le pays. Et donc, il voit le Rav Kook qui a un rapport très proche avec eux, et Rabbi Yaakov Ritbal dit: je n'arrive pas à croire que ce couple-là qui m'enseignait la Torah à Volozhin en est réduit à ce genre de choses. C'est quoi son problème? Eh bien, c'est justement sa proximité avec les Chilonim. Et il lui dit: pourtant, on dit bien dans la Tfila trois fois par jour, Vela Malchini Malti Itikva, Vela Zedim Meirayo Vedu. Donc pour lui, le Rabbi Yaakov Ritbal, eh bien, la Birkat Aminim, c'est contre les Chilonim. Le Rav Kook, dans sa lettre 555, va lui expliquer qu'il a un tout petit peu tort, et un petit peu beaucoup. Et il va lui expliquer que le Am Yisrael a deux dimensions de Kedusha. Le peuple juif a deux dimensions de sainteté de Kedusha. La première s'appelle Kedusha Ta Segula. Et la deuxième, Kedusha Ta Bechira. Ok ? Kedusha Ta Segula, dit le Rav Kook, c'est quoi ? C'est tu es Kadosh parce que tu es né juif. Point. Tu n'as rien fait pour ça, tu es l'enfant, c'est-à-dire pas l'élève, l'enfant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu es Kadosh, Zemayesh. La Kedusha, ta Bechira, celle basée sur le choix, Bechira c'est l'Ifro, c'est le choix, eh bien dit que tes actions vont dévoiler une autre Kedusha, Torah, Maasim Tovim, tout ça. Donc, ça c'est la définition. Dit le Rav Kook, il est évident que la Kedusha de la Segula est beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte, beaucoup plus intense que celle de la Bechira. Parce que ça dépend de ton être le plus profond. Aval, Brit Krutahi, c'est une alliance que Dieu a passée avec le monde, que Bagalout, à Segula, ne peut se dévoiler que par l'intermédiaire de la Bechira. Si on résume, tu as deux Kedushot en toi. Maintenant, soit tu défais la Kedusha de la Bechira, donc les actions qui vont avec, et à ce moment-là, tu dévoiles la Bechira et tu dévoiles en plus, en prime, en bonus, la Segula. Soit tu ne fais pas de bonnes actions, et donc la Bechira, tu ne l'as pas, et la Segula, tu l'as, mais elle est cachée à l'intérieur. Ok ? Pharaon, qui avait bien étudié Igrot Reiya du Rav Kook, dit: durant les 10 plaies, vous n'avez rien fait, vous les juifs. Vous n'avez rien fait. Vous étiez à Goshen, vous étiez complètement passifs. En d'autres termes, la Kedusha qui a été dévoilée durant les 10 plaies, Zekdusha ta Segula. Et ça, j'accepte qu'effectivement, vous avez une dimension qui n'est pas la mienne et que je ne peux pas intégrer. Ça veut dire. Ah, bah, le Rav Kook, il a dit que la Segula n'avait une influence que s'il y a la Bechira qui va avec, eh bien, je viens maintenant vérifier si au niveau des actions, vous méritez plus que nous d'être les dirigeants du dévoilement de Dieu dans le monde. Ok ? Et pourquoi il a fallu que j'attende 3 jours ? Eh bien, pour qu'il y ait une chazaka à votre libération. Puisque avant cela, on ne pouvait pas regarder vos actions, vous étiez des avadim. Des esclaves. Or, un esclave, il n'est pas responsable de ses actes. Tout ce qu'il fait, c'est son maître qui est responsable de lui. Donc, tant que vous étiez esclave, je ne pouvais pas poser la question de la Bechira. J'ai attendu 3 jours que, eh bien, vous soyez officiellement, pas seulement libéré, mais que vous étiez maintenant véritablement responsable de votre libération. Et donc, maintenant, je pose la question. OK ? Et on va voir que c'est exactement cette question qui va se poser Béhémet. Alors, revenons dans les versets. Dernière petite chose, avant de continuer dans les versets, reprenez le verset Chet. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה. Vous vous rappelez certainement que la semaine dernière on a évoqué qu'il y avait 4 factions dans le peuple juif. Vous vous rappelez? On a dit ceux qui sont sortis d'Égypte parce qu'ils ont été chassés. Ils auraient bien aimé rester, mais leur gros nez les a trahis. Et leur nom, Yankelevich, a fait que Ben Soussan, tout ça, El Malasot, ils étaient marqués comme juifs, ils ont été obligés de sortir d'Égypte. Il y avait une autre façon, une autre faction qui est prête à sortir que si c'est facile. S'il y a des problèmes derrière, je ne sors pas. Une autre faction qui est attirée par la mystique religieuse de Moshe de la Torah. Et une quatrième qui veut se battre. C'est-à-dire il y a ici une 5e faction. C'est celle qui s'appelle « Ubené Israël Yotzim Beyad Rama ». Qu'est-ce que c'est Beyad Rama? Regardez comment on traduit « Onkelus ». « Onkelus » traduit « Yad Rama » par… Vous avez « Onkelus » Ah, tu n'as pas toi. « Resh Gale ».« Resh Gale », ça veut dire « la tête découverte ». En français, la tête est haute, fière.
Ils disent ici, les Israélites allaient ouvertement de l'avant.
Mais c'est ouvertement. C'est-à-dire, je ne me cache pas. Ce n'est pas seulement j'ai des armes et je suis prêt à me battre, mais j'ai la tête haute. Je n'ai plus la tête courbée, je ne suis plus un juif courbé. Je ne suis plus un juif errant. C'est-à-dire ? Alors, c'est qui cette 5e faction ? On va voir. Il semblerait que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Mais on va voir. וירדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרו, ופרשיו, וחלו, על פי החירות, לפני בעל ספר. Donc les Égyptiens arrivent à rattraper les Bnei Israël devant פי החירות, לפני בעל ספר, ופרו יקריב. מה זה ופרו יקריב? Toi, tu dis instinctivement, il a fait un korban. La grive. C'est vrai, mais non. Là, ça veut dire littéralement, il s'est rapproché. Mais sauf que toi, naturellement, tu aurais dit, ou paro, itkarev. En hébreu moderne. D'accord ? Alors, la grive, ça vient du mot karov, dans tous les cas. Un korban s'appelle korban parce qu'il vient du mot karov. Il me rapproche d'un kadosh baruch hu. Donc, évidemment que là, littéralement, ça veut dire que Paro s'est rapproché. Mais, dans la mesure où nous, on a lu la Torah, et on sait que la notion de l'akriv, ça fait référence à un korban, à une relation directe à Dieu, eh bien, on ne peut pas faire abstraction de cette connaissance par rapport à ce verset. Donc, oui, il s'est rapproché, mais d'un autre côté, Ugan ikriv, pas un korban, et là, une bakasha. Le Talmud de Jérusalem et le Midrash vont nous dire de quoi il s'agit. Pardon ? Bah disons que là, on n'a aucune info. Peut-être qu'il a fait un korban. Non, mais c'est sûr que les goyim faisaient aussi des korbanot. C'est pas un problème. Jusque-là, on n'a pas une info sur le fait qu'il a fait un korban. C'est très possible. Ça va dans l'air du temps. Que si jamais il veut parler à Dieu, eh bien, il en fait un korban d'abord. Donc, ça me va tout à fait. J'ai juste que le korban n'est que, si tu veux, le symptôme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a à dire ? D'autant plus que, regardez la suite du verset, je reviendrai au début, mais « Vaïssou bene Israël et Enehem, veine mitzraim nosea achareem, vaïreou meod, vaïtsakou bene Israël et Hachem. » On nous dit ici que mitzraim nosea, alors que juste avant on nous a dit « Vaïrdefou mitzraim achareem, mais c'est qui on parle ? Des mitzrim. » Pourquoi Vaïssou, Vaïrou et Mitzraim Nosea Achareem au singulier? Et puis qu'est-ce que ça veut dire Vaïssou et Enehem? Ils ont levé les yeux vers le ciel. La 7 et 9, c'est regarder vers le ciel. Qu'est-ce qu'ils ont été voir? Et puis pourquoi Vaïreou Meod? Disons que on fait un peu de mathématiques. On aime bien faire des mathématiques dans la sortie d'Égypte. Combien de chars de guerre Pharaon a-t-il amené avec lui? C'est marqué, 600. Chesh Meod Rechev Bachou. 600. Ah non, il ne va pas vérifier. Ouais, enfin, il est vérifié, il a plus ou moins déjà son avis. Il a plus ou moins son avis. C'est comme à l'époque, quand il ne voulait pas laisser les Israël partir, c'est que tant qu'il n'a pas été convaincu, il avait plus de l'autre côté. Hein? Donc, il prend 600 chars. Alors, un char de guerre égyptien, c'est un deux places. Il y en a un qui conduit, il y en a un qui tire des flèches ou qui attaque. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 1200 hommes. Maintenant, il n'y a pas marqué. Ça me paraît évident qu'il a pris aussi de l'infanterie avec lui.
Ceux qui sont à pied.
Hein ?
Il y en a parfois qui sont à pied.
C'est ça, l'infanterie. Ceux qui sont à pied. Il n'y a pas les cavaliers. Ceux qui sont à pied. Alors, on ne me dit pas combien ils étaient.
Ils sont plus nombreux.
Hein ?
Ils sont plus nombreux.
Bien sûr qu'ils sont plus nombreux, c'est évident. Maintenant, on ne m'a pas dit combien ils étaient. Je vais te lancer stam un chiffre qui me paraît logique par rapport à 600 chars. C'est-à-dire, donc je vais dire qu'il y a au moins 5 fois plus de personnes à pied que de chars. Pourquoi je dis 5 fois plus? Parce que c'est plus ou moins le ratio qu'on retrouve dans les différentes guerres. Mais tu sais quoi? Fadal, 10 fois plus.
Je comprends pourquoi ils ont levé les yeux. Il y avait peut-être aussi des avions.
Voilà, il y avait certainement des avions également. Bien sûr. Disons qu'ils sont 10 fois plus. Donc il y a 6000 hommes. 6 000 hommes et 600 chats.
Oui, mais eux, ils ont HM avec eux.
Ah, tout de suite, HM. Arrête d'être religieuse. Ils sont 600 000.
Oui, mais 600 000.
C'est pas des soldats.
Ah, alors, tu vas dire, c'est pas des soldats. Mais c'est d'accord, c'est pas des soldats. Asma. Asma. Sauteur dessus à 600 000. D'abord, on a dit qu'il y avait une faction qui était, oui, prêt à se battre.
Il n'y avait qu'une faction qui était prêt à se battre.
Mais on n'a pas dit combien ils étaient. Oui. Sur 600 000. Peut-être qu'ils étaient un peu plus que deux.
Peut-être, oui.
OK. Et même si ce n'est pas tous des soldats, 600 000, 6 000, Holzot, à un moment donné, le rapport de force quand même.
Les deux sont à guérir, entraîner les autres.
J'entends bien. Mais Holzot, c'est pour ça que ça m'étonnerait qu'ils aient eu peur de l'armée de Pharaon. Quoique, effectivement, l'esclavage, ça te brise un homme, pas de problème. Donc, ok, mais il y a aussi autre chose. Et c'est là que je reviens à mon Uparo écrive. On a regardé les mâles. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et c'est ça qui nous a fait peur. C'est qui cet Égypte qui les poursuit? Eh bien, le Talmud de Jérusalem, ainsi que le Midrash, nous dit qu'en fait, ils ont vu Mitzrayim Saba. Ils ont vu l'Égypte grand-père, c'est-à-dire, en fait, l'ange de l'Égypte, l'idéal spirituel que représente l'Égypte. Alors, l'Égypte représente un idéal que Dieu veut qu'il soit dans le monde, sinon il ne serait pas là. Et donc, ils ont vu rentrer le représentant de l'Égypte dans le tribunal céleste.
C'est quoi l'idéal de l'Égypte?
C'est quoi l'idéal de l'Égypte? C'est l'idéal de la domination du monde. Par l'intermédiaire de la Chochma. Ok ? C'est ce qu'on avait vu avec Abraham, qui lorsqu'il dit à Sarah qu'il va en Égypte, c'est pour récupérer la Chochma. Imrina Achotiat. Rappelle-toi, on avait dit que ce verset, Achotiat, revient pour la Chochma dans Michelet. Bekitsour, l'ange de l'Égypte arrive dans le tribunal céleste, et c'est ce que veut dire le mot Uparo écrive, et il vient avec fracas, et il dit Ahem, Ahem. C'est pas juste. Ah bon? Qu'est-ce? Comment ça se fait, Dieu, que tu prends fait et cause pour eux? Arrête à l'alou ovde avodazara. Les Égyptiens, ils sont effectivement idolâtres, j'avoue. Aval à l'alou gam ovde avodazara. Ceux-là, les Bnei Israël, ils sont aussi ovde avodazara. Mipnema atame abed elou. Mipene El. Pourquoi est-ce que tu prends fait et cause pour cela et pas pour cela? Au niveau de la Bechira, il semblerait que bah, vous n'êtes pas mieux que nous. Donc il n'y a pas de raison de vous laisser sortir d'Égypte. On a dit, parce qu'avant, avant, ils ne sont pas encore responsables de leurs actions. Parce qu'ils étaient esclaves. Donc, tant que tu es esclave, je ne peux pas venir avec un argument, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que tant que tu es esclave, ce que tu fais, c'est de ma faute, en fait. C'est moi ton patron. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il a attendu 3 jours après les avoir laissés. 3 jours, c'est chazaka. Vous n'êtes vraiment plus en ma possession. Maintenant, on va regarder comment vous comportez. Ben, vous continuez à être idolâtre. Donc, il n'y a pas de raison.
Oui, comment ils sont idolâtres?
Donc, on sait qu'ils sont idolâtres.
Ouais, voilà.
Et tu veux qu'ils soient quoi?
Ben non, mais là, ils sont en train de marcher. Ouais. Ils font rien. Ils n'ont aucune idolâtrie.
D'abord, excusez-moi, qu'est-ce qu'il en sait Paro? Il a été leur patron pendant pas mal d'années. Il sait très bien que les Bnei Israël, ils sont idolâtres. D'autant plus que Pharaon, il a certainement lu le livre de Yéhézkel.
Mais là, ils sont en sortie.
Non, mais là, oui.
Mais Pharaon, tu crois qu'il n'a pas lu Yéhézkel à Navi? Chapitre 20. De lire Yéhézkel à Navi, d'accord, c'est facile.
Non.
Le problème, c'est que les Juifs, ils ne le lisent pas, c'est chaval.
Non, mais je veux dire, parce que là, on n'est pas à Yéhézkel.
J'ai pas compris. Yéhézkel à Navi, quand il te dit que quand on est sorti d'Égypte, on était tombé dans toutes les perversions de l'Égypte. Mais bien sûr, quand on est sorti aussi. Allô, qu'est-ce qui t'arrive? Tant qu'il n'y a pas eu Mahamad Arsinaï, pourquoi tu veux qu'on change nos concepts? Ok, waouh, il y a 3 jours.
Mais... 3 jours, ils ont eu le temps de servir des idoles et de...
Je te rappelle que dans pas si longtemps plus tard, quand Moshe il sera parti un peu trop longtemps, on va créer un autre idole.
Oui, d'accord, mais là...
Donc tu vois bien qu'ils sont encore Ouvda Avodah Zara.
Mais là, on n'en parle pas.
De... Mais c'est pas, on n'a pas besoin d'en parler, c'est pas rouge pour tout le monde. C'est même pas un débat, il n'y a même pas de question là-dessus. C'est sûr qu'on est Ouvda Avodah Zara à ce moment-là. C'est même pas un débat. C'est-à-dire, Moshe, il ne dit pas, non, c'est pas vrai, on n'est pas... Non, tout le monde sait qu'on est Avodah Zara. C'est Nahon. D'abord, on a dit qu'ils n'ont pas vu les 10 plaies.
C'est Aleph. Oui, parce qu'ils n'ont pas
on a dit les 10 plaies, c'était pour les Égyptiens. C'est-à-dire que Dafka, à chaque fois que la Torah nous parle de comment les Bnei Israël ils ont réagi par rapport aux 10 plaies, on nous dit justement qu'eux, ils ne les ont pas ressentis. Et l'exemple qu'on a donné avec la plaie des ténèbres, c'est marqué noir sur blanc que pour les Bnei Israël, il y avait de la lumière. Ils n'ont pas vécu les 10 plaies. Alors oui, ils ont vu sur Internet. Mais les Bnei Israël, les Bnei Israël, ils savent de ma sorette qu'il y a Dieu. Ce qui ne les empêchera pas de faire aussi de l'idolâtrie. Dis-moi, pas toutes, on va être sympa, mais pendant une grande partie de la période du premier temple, prends le livre de Mélachim. On sait bien qu'il y a la Torah, on sait bien qu'il y a Dieu, il y a le Beth Amikdash, il y a le dévoilement de Dieu au Beth Amikdash. Quoi, ça nous empêche de faire la Avodah Zara?
Oui, vous avez raconté l'histoire le matin au Beth Amikdash.
Oui, d'accord, par exemple. D'accord. Donc ça montre bien que ce n'est pas parce que tu connais Dieu que tu ne vas pas faire de l'idolâtrie. Quoi, on ne connaît pas des mecs qui mettent une kippa de temps en temps, quand ils ont un problème, ils viennent à la synagogue, ils demandent au rabbin une bracha, et l'après-midi, ils transgressent Shabbat. Bah, c'est l'okayam. Les cailloux, ça existe.
C'est antilogique.
Oui, mais en étant plus subtil aussi, si on a peur de quelque chose, c'est qu'on veut quelque part.
D'accord, et c'est pour ça que les mecs, ils font tous teshuva. Ça, c'est maillage. La définition de la Avodah Zara d'après le judaïsme, c'est Kala Shesanta Tachat Rupata. C'est-à-dire que je suis marié avec quelqu'un et je la trompe. Ça ne veut pas dire que j'aime plus ma femme. Mais stop, j'avais envie de faire un petit kiff ailleurs aussi.
Alors tout le monde est...
Non, j'espère que non.
Non, mais non, toujours dans la... je sais pas, on va bien des fois de temps en temps, je regardais un film,
Qui t'a dit que regarder un film, c'était pas interdit.
Si, puisque au lieu de passer mon temps à
quoi
à étudier la Torah,
Arrêtez d'être... Non. Ne soyez pas ce qu'on appelle des dociles, des religieux. Je t'explique. Quand tu dois faire une mitzvah, tu dois faire une mitzvah. Mais toute ta journée n'est pas faite que de temps où tu fais des mitzvot. il y a plein de moments dans la journée où tu fais des actions qui ne sont pas obligatoires, qui sont du domaine du parvé. Toutes ces actions qui sont du domaine du parvé, c'est à toi de savoir est-ce que tu fais des actions qui t'aident à dévoiler à Kadosh Baruch Hu, qui t'aident à faire plus de mitzvot, qui t'aident à te rapprocher de lui, ainsi de suite, ou est-ce que ce sont des actions qui sont parvé, encore une fois, qui ne sont pas interdites, mais qui vont plus te tirer vers l'interdit. À toi de savoir, tu ne peux pas être à ta place. Donc, je vais aller manger. C'est moutard de manger, ce n'est pas sourd et ce n'est pas mitzvah. C'est-à-dire, il n'y a pas de mitzvah de manger le dimanche. C'est moutard. Assour de manger pas cachère, mais là, je ne parle pas de manger pas cachère. Oui, cachère. Achav, tu peux me dire, non, tu as une mitzvah quand même de manger pour ne pas mourir. C'est-à-dire, ça va. Mais tu n'as pas de mitzvah de manger 3 repas par jour, par exemple. Avec un repas par jour, largement, tu tiens au niveau de ta consistance. C'est-à-dire, donc je vais manger 3 repas. Moutard, c'est-à-dire qu'à mon... Ah, je n'ai pas dit tout le Torah. Ah, comment ça? Pendant ton heure où tu as mangé, tu aurais pu étudier? Ah bah, tu sais qu'en mangeant, tu auras plus d'énergie et tu pourras mieux étudier. Ah, c'est-à-dire. Ou alors, j'ai mangé parce que j'avais envie de me faire péter le bide et dans le repas, j'ai bu un petit verre. C'est pas interdit. Puis un petit deuxième, un troisième pour faire passer le tout. Et puis après, je me suis endormi. Et je me suis endormi pendant 3 heures. Bitul Torah de 3 heures à cause de mon repas. Tu comprends qu'il y a plein de choses qu'on fait dans la vie qui ne sont pas obligées et ça ne veut pas forcément dire que je vais fauter et ainsi de suite. Donc tu me dis, j'ai envie de me faire un film. Yecholiot que c'est Besseder Gamour. D'abord, Yecholiot, évidemment qu'on parle d'un film cachère, bien évidemment, ce n'est même pas le débat. Mais on parle d'un film cachère. Peut-être c'est un documentaire historique sur, je ne sais pas, peut-être que tu as envie de suivre le cours du dimanche matin du Rav Ethan Fizon sur l'histoire du Second Temple. C'est-à-dire disponible sur sa chaîne YouTube. Tu as vu un peu la publicité maintenant,
bien amené, hein.
Le cours du Rav Fizon du dimanche matin sur l'histoire, ce n'est pas un cours de Torah. C'est un cours d'histoire. C'est bitul Torah. Ah ben si, c'est bitul Torah, c'est le Torah. Ah, ben peut-être que je vais me faire un... le Rav Fizon, il se foule pas. Tu vois, il met son écran et puis il balance ses connaissances. Bon, c'est pas très travaillé. Moi, j'ai envie d'aller voir une vidéo historique parce que j'ai envie d'apprendre plus sur un sujet historique. Je vais me faire un très bon documentaire bien détaillé pendant 1 heure, comme ça. Ça va me faire kiffer, en plus, parce que j'aime l'histoire. Et puis, ça va m'apprendre plein de choses. Ben, c'est l'hobby tout le Torah. Ça me permet d'apprendre mieux, ça me permet de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, ce que tu veux. Donc, c'est bécédère. Ou alors à l'inverse, j'ai pas envie de me faire un documentaire historique, ça m'a saoulé, je suis un peu truc. J'ai envie de me faire une bonne comédie française à l'ancienne sur l'influence culturelle des prénoms. Et donc, j'ai regardé le film Le Prénom. C'est-à-dire, est-ce que j'appelle mon fils Adolphe ou je l'appelle pas Adolphe, PH, F, l'homme Jeannet. Je vais passer un bon moment, je vais bien rigoler. Et mais parce que j'avais besoin de me détendre. J'étais vraiment stressé, ça m'a fait du bien, je me suis détendu et ça m'a permis d'aller au cours après et j'étais beaucoup plus... Donc c'est passé.
C'est quoi la Avodah Zara de nos jours?
Attends, mais Baruch HaShem, aujourd'hui, de nos jours, il n'y a plus de Avodah Zara.
Il n'y en a plus. Ah, non.
Avodah Zara, enfin, il n'y en a plus. C'est pas vrai, il y en a. Mais on va dire qu'il y a beaucoup moins de risques que tu tombes toi dedans. Il y a le christianisme, c'est encore d'Avodah Zara. Il y a certaines Avodah Zarot qui sont dans certains pays en Afrique ou dans certains pays d'Extrême-Orient. Il y en a encore. Aval, déjà, a répondu à cela le Rambam. Il dit qu'aujourd'hui, on faisait Avodah Zara, c'est lo behemet. C'est ma chenikra, ma soret avotem bidem. C'est, ils font ce que leurs ancêtres faisaient, mais c'est lo behemet.
D'accord. Et manquer de
Emouna,
est-ce que c'est Avodah Zara?
Pas du tout.
Non.
C'est pas bien. Non. Manquer de Emouna, c'est pas bien. C'est pas d'Avodah Zara. Et l'argent, c'est pas non plus de l'Avodah Zara. La télé, c'est pas non plus de l'Avodah Zara. Le smartphone, c'est pas non plus de l'Avodah Zara. Non, d'après la halakha, celui qui détient un smartphone n'est pas Hayav Mita.
Ah
non. Ben non.
Ah, ça va.
C'est incroyable. Et pourquoi? C'est-à-dire, El Malas. Ok? Il y a plein de choses dans le Talmud qui sont marquées. Tout celui qui fait ça, Keilu, Oved Avodah Zara. C'est Keilu. C'est l'Oved Emet. C'est pour te montrer que c'est grave, est-ce que tu veux, mais c'est là. Il n'y a pas marqué dans le Talmud. C'est d'accord. En même temps, si tu achètes un smartphone et que tu te prosternes devant lui et que tu lui fais des offrandes, à ce moment-là, c'est un bonheur. Il regarde qu'il y a des gens qui font ça. J'avoue, je ne sais pas. Bekitsour, tout ça pour dire que l'Égypte et son représentant Pharaon viennent demander des comptes quant à la, au comportement des Bnei Israël. Est-ce que vous méritez plus que nous, cette fois au niveau des actes? Et la vérité, hein, c'est que... Qu'est-ce qu'on peut faire? À ce moment-là, imaginez-vous la scène. Je continue dans les versets deux secondes, et pour comme ça on aura une vision du texte, et on pourra continuer à comprendre. Vayomru el Moshe. Donc, les Bnei Israël viennent voir Moshe. Amibeli en kevarim be Mitzrayim, lekartanu lamut ba midbar. Ma zot asita lanu lehotzianu Mitzrayim? Halo, ze hadavar asher dibarnu alecha be Mitzrayim, lemor, chadal mimenu venaavda et Mitzrayim, ki tov lanu avod et Mitzrayim, mimutenu ba midbar. Eh oui, ils sont en stress. Dis, pour ça que tu nous as amenés ici? Pour nous faire tuer maintenant par les Égyptiens? Pour mourir dans le désert? On était mieux en Égypte. Et là, que faire? Que faire, Benet?
C'est bizarre.
Là, on parle
quoi?
Ils ont crié vers Hachem.
Ouais. Ils ont vu qu'il n'y a pas de réponse. Donc ils ont été pas embauchés.
Il n'y a pas de réponse.
Non, vas-y, va y quoi à la chaîne? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oi! Ils ont dit Oi, veille! Oi, veille! Bon, d'accord, mais ils savent très bien comment ça marche. On crie Oi, veille, et puis après on vient embêter Moshe. Regarde, ça va revenir très souvent. Hein. Ils ont compris comment ça marche. Donc ils viennent voir Moshe. Maintenant, regardez ce qu'il dit Dieu à Moshe. Pardon? Oui. Non, pas Avod Azara. Avod Eved. Eved. C'est-à-dire, ce que Dieu il dit à Moshe. Je saute volontairement deux versets. Okay, je saute les versets de Gimel et Dalet, j'y reviens dans deux secondes. Mais Dieu répond à Moshe et il dit, Vayomer Hashem el Moshe, ma titzak elai. C'est-à-dire qu'eux, ils ont crié, ils ont dit, oh, il va voir, ensuite ils ont voir Moshe. Et donc Moshe, ce qu'il a été faire, il a été parlé au patron. Et le patron, il dit à Moshe, ma titzak elai. Bemili macherot, je ne peux pas t'aider. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne peux pas t'aider. Je suis pieds et poings liés parce que la demande de Pharaon est juste. Donc, ne viens pas me demander à moi de vous aider. Je ne peux pas vous aider. Pas, j'ai pas la force. Mais tant que vous n'avez pas vous-même montré que vous êtes supérieur à l'Égypte dans vos actions, je ne peux pas vous aider. Mais Maasim, je ne peux pas vous aider. Oui. Nakhon. Mais si Dieu lui a dit Matitsa Kelai, c'est qu'il a. Il a crié. Tout n'est pas mentionné dans la Torah, mais si Dieu lui dit pourquoi tu cries sur moi, enfin tu cries vers moi, ben de là je sais qu'il a crié vers lui.
Comme crie-tu à moi?
Oui, Matitsa Kelai.
On peut l'entendre dans deux sens.
C'est-à-dire comment tu veux l'entendre?
Il y a le sens de pourquoi.
Mm-hmm. Ou qu'est-ce que tu cries? Ma. Ouais. Toi d'abord. Qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu cries à moi?
Qu'est-ce que tu veux?
Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas crier à moi?
En d'autres termes, c'est pas moi qui peux régler le problème. C'est ça? Achat. Bien. Qui c'est qui va décider de faire des actions bonnes ou mauvaises?
C'est moi.
C'est ça? Donc. Que faire à ce moment-là? Maintenant, on essaie de s'imaginer un tout petit peu l'ambiance. Am Israël, devant lui, la mer. À gauche, à droite, le désert, des montagnes rocheuses, ils ne peuvent pas bouger ni à gauche ni à droite. Derrière eux, l'Égypte. La situation est grave, donc les Juifs font ce qu'ils savent faire de mieux. Et pas du tout, ils se disputent. D'abord, ils se disputent. C'est-à-dire... Oui. Mais d'abord, ils se disputent. C'est un sport national. Je ne sais pas si tu connais. Regarde Arutz Knesset et tu vas voir le sport national. Ok ? D'abord, on se dispute. Et le même Talmud Yerushalmi qu'on a évoqué tout à l'heure et le Midrash, ils disent « Be'otasha Am Israël na'asu arba kitot alaya » Ils se sont divisés, ah tiens, comme de par hasard, en quatre groupes. Attends, en quatre groupes. Les quatre fameux groupes qu'on avait évoqués la semaine dernière. Le premier groupe, ils ont dit Narzor le Mitzrayim. Non, le premier groupe Israël, ils ont dit Nipol le Yam. Suicide collectif, les gars. Allez, ouais, on n'en peut plus. Allez, on se jette à l'eau, tant pis. On n'en peut plus tout ça. C'est trop dur. Deuxième groupe, ils ont dit Non, ma pitom. Les amis, rassemblez tous les trucs qui sont un peu blancs. On va en faire un méga drapeau blanc. Et on va. Drapeau blanc. Et on va dire à l'Égypte bon, autant pour nous, c'était une blague, on rentre. Un troisième groupe qui a dit bon, les gars, c'est le moment de sortir les M16, de sortir les M4, de sortir tout. Allez, on y va. On se bat. Et un troisième groupe qui en dira boy, ça. Et on sort les télénines. Et on fait une grande chaîne de prières. Alors vous, les filles, vous faites Perek Shira. Et vous, les garçons, vous faites des télénines. Et vous, les grands-mères, vous faites tout. Parce que de toute façon, vous faites tout déjà depuis qu'on est sorti d'Égypte. Nous. Quatre groupes. On les reconnaît, nos quatre groupes. Ceux qui ont dit on veut se suicider parce qu'on n'en peut plus, c'est ceux qu'on a dit. Ils sont prêts à partir que si c'est facile. Sinon, ils ne veulent pas partir. Donc là, ils sont devant face à une difficulté, ils ne sont pas capables de gérer. On a dit à ceux qui ont été chassés d'Égypte, mais qui seraient bien restés. Donc à la première occasion, ils disent ah non, on veut rentrer en Égypte. Il y a ceux qui étaient prêts à se battre. Bon, bah eux, ils sont prêts à se battre. Et il y a ceux qui sont prêts à partir que si ça passe par le prisme de la Rouhaniyout, c'est ceux qui veulent prier. Hein ?
Il y a ceux qui veulent se battre.
On a dit ceux qui veulent se battre, ils sont prêts à se battre.
Il n'y a pas le groupe qui veut se battre et prier.
Non, ça n'existe pas le groupe qui veut se battre et prier. Hein ? Parce qu'ils ne savent pas qu'on peut et se battre et prier en même temps. Parce que tu ne peux pas et te battre et prier en même temps. Je te promets, j'ai déjà été dans des synagogues, j'ai déjà prié, et j'ai déjà été aussi dans des guerres d'Israël. Tu ne peux pas, au moment où tu es en train de te battre, prier. Ce n'est pas possible. Parce qu'au moment où tu es en train de te battre, si tu dis « Pousse ! Pousse, Misrak ! Je fais un Tehilim !» Je peux t'assurer que ton ennemi, il va
te tuer. C'est l'heure de faire schéma, on arrête.
Voilà, c'est le thé. C'est comme dans Astérix et les Bretons. Et les Bretons, ils s'arrêtent de se battre contre les Romains à 5 heures, parce que c'est « tea time ». Non, ça ne marche pas comme ça. « Minre ! » On s'arrête. Non, ça marche pas. Il y a une cinquième faction. On va voir ce qu'elle fait. Mais il y a une cinquième faction. Deux secondes. Pour l'instant, on en a quatre. Et les quatre factions sont mauvaises. Voilà. Les quatre réactions sont une erreur. Que ce soit celle de suicider, évidemment, celle de vouloir rentrer en Égypte, évidemment, celle de se battre, évidemment, et celle de prier, évidemment. Pourquoi les quatre sont une erreur ?
Attends, jusqu'à présent, dans le texte, on voit surtout ceux qui veulent rentrer en Égypte.
Non, tu vas voir. Dans le texte, dans deux secondes, tu vas voir les quatre. Tu veux voir les quatre maintenant ? Il y a la cadeau. Verset Yud Gimel. Va yomer Moshe el Aam. Ok ? Al tiraou. Ça, c'est ce qu'il a dit de manière générale. Il a dit à tout le monde. N'aie pas peur. Et là, il parle à chaque groupe bénifrade. À ceux qui voulaient sauter et mourir, il leur a dit Itiatsevou. Ou Reou et Yeshua Tachem. Ça veut dire garde à vous. Non, il tient vous. Fixe. Hop, personne ne saute.
Tenez-vous là.
Voilà, tenez-vous là. Personne ne bouge. Non, ne saute pas. Non. Au deuxième groupe, il leur a dit.
Attends, mais avant qu'il leur a dit. Oui. Tout à l'heure, on a vu que les Israéliens disaient on veut revenir en Égypte.
Non. Attends, ça arrive. Ça arrive. Là, on t'a dit, ils se sont divisés en quatre groupes. Ceux qui voulaient rentrer en Égypte, ils ont fait le plus de bruit. Ils étaient certainement d'ailleurs les plus nombreux. Mais là, Moshe, il parle aux quatre. Et il dit à ceux qui voulaient mourir, il leur dit Itiatsvou, personne ne bouge. À ceux qui voulaient rentrer en Égypte, il leur dit Ureu et Yeshua Tachem, Hashem, Aselachem, Ayom. Et là, il leur dit au deuxième, il dit Ki Asher Eitem et Mitzraim, Ayom, Lotosifu, Lirotamot, Adolam. Vous voyez les Égyptiens là ? Ouais ? Bon, on ne les reverra plus. Terminé. Donc non, on ne retourne pas en Égypte. À ceux qui voulaient se battre, il leur a dit « Hachem yilachem lachem » c'est Dieu qui va se battre pour vous. Et à ceux qui voulaient prier, il leur a dit « Ve'atem tacharishun » ça veut dire « Chut !» Check it. Ok ? Shav lama, aucune des quatre options n'est bonne. Eh bien parce que ces quatre options ne rajoute pas de mérite. Aucune de ces quatre versions n'ajoute du mérite. Évidemment,
ça ne rajoute pas de mérite.
Tu imagines bien que je vais expliquer les quatre. Évidemment que se suicider, ça ne rajoute pas de mérite. Ça, c'est bon. Rentrer en Égypte, il n'y a pas non plus besoin d'expliquer. Se battre, ce n'est pas un mérite. C'est une réaction naturelle. C'est une réaction naturelle que lorsque tu es acculé, eh bien, tu te défends. C'est une réaction naturelle, c'est-à-dire c'est, ça va être tout le combat du christianisme de vouloir dire « Non, il faut tendre l'autre joue. » Parce que naturellement, quand on te met une claque, tu ne tends pas l'autre joue. Naturellement, si on te pousse, tu essayes de te défendre. Et naturellement, comme quelqu'un, il est acculé face à la mort, eh bien, il se rattache au spirituel. Il se rattache à justement ce qui est au-delà de sa vie. Donc, aucune de ces quatre options ne rajoute un mérite. Or, ici, il faut faire pencher la balance. Pour l'instant, la balance, elle est moite-moite. Donc, il faut faire pencher la balance. La reine, Dieu, il dit à Moshe, je reviens donc à notre verset tête, va. Et on a Hachem, et Moshe, ma titsa kelaï. Alors, je vais te donner un conseil. Daber el bene Israël ve Isaou. Parle au bene Israël et qu'ils avancent. Qu'ils montrent qu'ils ont confiance dans ce que j'ai dit. Leurs actions, ça ne peut pas être encore Shabbat, ils n'ont pas reçu Shabbat encore. Mais leur action, c'est quoi? C'est que quand je leur ai dit de faire quelque chose, ils le font. J'ai dit on sort d'Égypte, j'ai dit on avance vers Israël. Eh bien, alors avance. Donc, à ce moment-là, nous dit le Midrash qu'il y a un homme qui est la cinquième faction. Cet homme, vous le connaissez, il s'appelle Nachshon ben Aminadab. Et lui, il avance. Et lui, alors qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Comment la Ganénette, elle l'a raconté à mes enfants? Eh bien, à chaque parashat Béchalar, la Ganénette, elle raconte aux enfants que Nachshon, c'est un sadique. Et Nachshon, il a dit qu'il faut avancer. Alors, il est rentré dans l'eau. Puis il a avancé, fièrement.
La tête haute.
Mais il avance. Maintenant, vu que le sol, bah, il descend. Quand il est arrivé là, il a dit, je n'ai peur de rien. Dieu, il a dit d'avancer. On avance. Et il a continué à avancer. Glou, 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 glou. Et la mer s'est ouverte. Top. Je suis persuadé que ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis persuadé que ça ne s'est pas passé comme ça, parce que Nachshon, il est Nachshon, mais il n'est pas stupide. Il est Nachshon, mais il n'est pas stupide.
Nachshon, ça veut dire ?
Nachshon, ça veut dire maintenant quelqu'un qui prend les devants. Parce que Nachshon, d'accord ? Maintenant, il n'est pas stupide. Pourquoi je dis ça ? Ben, il sait très bien qu'un homme qui va tout seul comme ça dans la mer, il meurt. Barreau. Donc quand on te dit que Nachshon, il a sauté dans l'eau, c'est évident qu'il n'a pas sauté dans l'eau. Et là, il a dit, d'ailleurs, il n'a pas fait ça tout seul, il a dit ça avec la tribu d'Yehuda. C'est le chef de la tribu d'Yehuda. Je peux t'assurer qu'il a le charisme qu'il faut. Et donc, il dit, bon les gars, on arrête les bêtises, au boulot. Dieu, il a dit, on avance. Et Nachshon, il y a de l'eau. Ben oui, ben c'est pas compliqué. Yala, commencez à couper des rondins de bois, vous amenez de la ficelle, on va faire des radeaux. Yala, on avance, Dieu, il a dit on avance. Non, comment on avance? Ben comme des êtres humains, ils essayent d'avancer sur l'eau. Ils ont fait des bateaux. C'est sûr. C'est pas marqué, hein. Mais je peux t'assurer que ça s'est passé comme ça. Comment ça, un peu de bois?
Il y a des jours.
Il n'y a pas de bois.
On est dans
d'abord.
Des jours.
Pardon?
On est dans la mer des gens, donc il y a déjà des gens.
Mais alors, sur le bord de la mer, il y a déjà plein de végétaux. Et deuxièmement, tu te dis qu'ils n'ont pas pris avec eux plein de trucs. Je te rappelle qu'ils ne sont pas venus à la piscine en maillot de bain. Non, tu comprends que ils ont des charrettes, ils ont des chariots, ils en ont plein. Ben pourquoi pas? Il faut avancer. Mais ça, tu réfléchis. Là, pour le coup, tu réfléchis pas comme un juif d'il y a 3500 ans. Ça, tu réfléchis, je connais déjà la suite et tout ça, machin. Mais non, là, je suis pressé par l'événement.
Peut-être qu'on lui prête quelque chose qu'il n'avait pas non plus.
Moi, je suis sûr qu'il avait. Quoi, l'intelligence
Non, c'est ce qu'on imagine, nous, maintenant.
Mais moi, j'en suis persuadé que Nachshon, il, c'est un chef.
Quelle est la source d'origine de cette...
Quoi, du Midrash?
De ce Midrash,
oui. Bah, c'est le Midrash.
D'où ça vient et qu'est-ce qui a amené cette idée-là? Non. Alors qu'on a quelque chose qui n'a rien à voir.
Deux secondes. D'où ça vient? De la tradition orale. Comme tous les midrashim, ils viennent de la tradition orale. Des fois, les midrashim, ils viennent appuyer un verset. Des fois, ils ne viennent pas appuyer un verset parce qu'il n'y a pas de verset qui parle de ça.
Et qui a amené ce
midrash? Oui, tu veux savoir quel est le rabbin qui a dit « Ah, je m'en rappelle plus du tout. Je crois que c'est Rabbi Yehuda, mais je ne suis pas du tout sûr. » Mais c'est le Khashoggi. Dans la mesure où que ce soit Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon ou Rabbi Yossi, c'est pas important. Il y a une tradition qui vient de qui? Bah, des mecs qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu cet événement-là et qui te le racontent.
Ça contredit ce qu'on a...
Ah non, ça contredit rien du tout pour l'instant. Oui. Pourquoi?
Hachem va intervenir. Moshe leur dit...
Mais il va intervenir. Il va intervenir.
Hachem leur dit, il y a Moshe, dis-leur...
D'avancer.
Qu'ils partent.
D'avancer.
C'est le même mot qu'on avait appris.
Oui, mais d'accord, mais ils savent où, mais ils vont pas partir où d'avancer.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient campé à cette
partie. Évidemment.
Il lui donne l'ordre de partir.
Mais où?
Ils vont voir.
Non mais d'accord, mais je veux bien. Mais deux secondes, faut être un tout petit peu A plus B. Il leur dit, vous avez campé devant la mer.
Oui.
Ils peuvent ni aller à gauche, ni aller à droite, ni aller derrière.
Ouais.
Ils peuvent que passer par la mer.
Ouais.
Donc quand il leur dit, dis-leur de se mettre en route, ça se passe par la mer.
Oui.
De là, le Midrash, il dit, il y en a un qui a dit, ok, ben, je me mets en route. C'est tout. Non, Moshe, il ne sait pas encore que Dieu il va lui ouvrir la mer.
Attends,
ça va venir.
Attends.
Dans deux secondes.
On a interrompu Dieu au milieu de
ça. D'accord. J'ai juste dit qu'est-ce que Nachshon il s'organise. C'est vrai que Dieu il n'a pas fini de parler.
En fait, il attend un miracle.
Qui?
Nachshon.
Pas du tout. C'est justement ça que je suis en train de dire. Il n'attend pas de miracle. Parce que d'abord, c'est assourd d'attendre des miracles. Il y va, on m'a demandé d'avancer, j'avance. J'ai une émouna très forte dans ce que Dieu il m'a dit. On m'a dit d'avancer, mais j'avance. Comme c'est possible d'avancer. Tu m'aurais dit que Nachshon Ben Aminadab, c'est le champion toute catégorie de nage libre dans l'océan. Peut-être qu'il l'aurait fait à la nage, mais je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'il peut penser ça de tout un peuple. Donc il a dû se dire, ben on avance comme on peut avancer. Maintenant, de son côté, Dieu, vu que Nachshon, il fait ça, alors Dieu, il va donner un coup de main. C'est-à-dire que quand on te dit que c'est Nachshon qui a ouvert la mer, c'est pas lui qui a fait un miracle, c'est Dieu qui l'a ouvert la mer. Hein? Mais c'est parce qu'il y a eu un acte qui a fait pencher la balance.
Pourquoi on ne nous raconte pas ça et on nous raconte comme on gagne
Allez, je suis là, je te raconte.
Ouais. Moshe dit le premier.
Oui.
Et il dit, tenez-vous là.
Tout à fait.
Et voyez la délivrance. Va
tout à fait.
Je donne une instruction pour celle-là.
Tu attends, tu bouges pas.
Voilà.
Oui, tu connais beaucoup les juifs, toi.
À partir de là, il dit à Moshe, prends ton bâton.
Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, tu as dit que Moshe, il va dire aux juifs de ne pas bouger. Et toi, tu penses que les juifs, ils ne vont pas bouger.
Parce qu'ils ne pouvaient pas avancer.
Bah, la preuve, c'est que Nachshon, il a avancé. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes une chose. La Torah, elle est donnée au peuple juif. Le peuple juif, il ne sait pas obéir. C'est-à-dire. Mais des fois, c'est très bien. Parce que la kavana d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on lui montre qu'on veut faire ce qu'il veut. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas faire ses miracles, mais on va voir la Yeshua Tachem. Mais la Yeshua Tachem, ça peut être à ce moment-là qu'il va s'occuper de l'armée égyptienne. C'est-à-dire que je ne sais pas encore que la Yeshua Tachem, ça va être qu'il va ouvrir là-haut. Donc, ça n'est pas contradictoire que Nachshon dit « Ok, Dieu il va s'occuper des Égyptiens, pas de problème. » Et moi, j'avance. Maintenant, il se trouve qu'il y a une autre information. « Ve'ata, arem et matecha, unete et yadecha alayam, huvekaeu, vayavou bene Israël betoch hayam, vayabasha. Ve'ani ineni mechazek et lev mitzayim, vayavou acharem, ve'ichabeda ve'faro ve'chol chelo, ve'ichbo ve'parashar, ve'idu mitzayim ken yashem, ve'ichabedi ve'faro ve'ichbo ve'parashar. » Donc à ce moment-là, Dieu, il dit à Moshe le projet. On ne sait pas que Moshe, il l'a déjà dit au Bnei Israël. C'est pour ça que Nachshon, il peut continuer à faire ses radeaux. Pour l'instant, Moshe, il n'a pas encore donné le projet au Bnei Israël. Mais le projet, il est clair. Je vais ouvrir l'eau, vous allez passer, et vous faire rentrer les Égyptiens également. Le but, c'est qu'eux, ils rentrent. D'accord ? Vaïssa malach Elohim haolech lifne machane Israël, vaïelech ma'achoréhem, vaïssa amud e'anan mipenehem, vaïamod ma'achoréhem. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi est-ce que pour l'instant, on met la nuée qui était devant, qui les faisait avancer, on l'a fait venir derrière ?
Protéger les
Égyptiens. Protéger les Égyptiens. C'est-à-dire, c'est fait gagner du temps. Comment on appelle ça, gagner du temps dans le langage de la Torah ? Midat ha-rachamim. C'est-à-dire ? C'est pour ça que les frères Kabbalah, ils te disent que Zé Midat ha-rachamim qui est venu. Ok ? Donc à ce moment-là, c'est-à-dire, ils font gagner du temps. Oui ?
Tout d'un coup, il y a un malade qui arrive.
Nafon.
Zé Anna. Il y a des choses que fait Dieu.
Il y a des choses qu'il fait par l'intermédiaire de Malachim. Par contre, c'est pas nouveau. Vayavo ben machane Mitzrayim ben machane Israël, vaya anan va choshech, vaya et al laïla velo karav zed zekola laïla. Dans toute la nuit. Vayet Moshe et Yadou. À la yam. Quand ? Avant la nuit. On revient à l'ordre qui a été donné juste avant. On t'a dit, on t'a présenté que la distance entre Bnei Israël et Mitzrayim, ça a duré toute la nuit. Maintenant, je reviens juste avant la nuit, au moment où Dieu il a dit à Moshe, mets ta main, et il a mis sa main. Vayet Moshe et yado à la yam, vayolech Hashem et a yam, bevoir kadim azza kol alayla, vayasem et a yam lechorava, vayibakum amayim. Donc, combien de temps ça a mis pour que l'eau... Eh ben non. Zemach loket, entre deux parties du verset. מצד אחד כתוב ויולך השם את הים ברוח קדים הזה כל הלילה את דנות כותי המחקה וישם את הים לחורבה ויבקעו המים וזה ויבקעו את זה אומר את זה סנדים דונק אסקו לא זה רותירה ויולך המים הים כל הלילה את זה רותירה פרוגרסיבמו פר לבן ou est-ce qu'il y a eu un moment donné où elle s'est scindée ? La croquette, entre le verset lui-même. Comment est-ce que Dieu il a fait ? Ben, il a fait gam, vegam, lama. Est-ce que ? C'est-à-dire ? Je ne connais pas celle-là. Autant pour moi. J'aurais bien aimé te suivre là-dessus, mais... גם וגם, למה? שאלה. לגאולה, אלה דרך הטבע, ואלה ניסית. Est-ce qu'elle est miraculeuse? Ou est-ce qu'elle est par les voies naturelles?
גם וגם.
אז זה גם, זה גם. לפעמים, tu vois plus ce côté-là. Et לפעמים, tu vois plus ce côté-là. Et il y a donc des Bnei Israël qui se sont revendiquer de celle-là et d'autres de celle-là. Et il y a eu une grosse, grosse, grosse marloquette entre les Béné Ephraim et les Béné Ephraim et les Béné Yehuda, parce que lorsque le vent a commencé à souffler, les Béné Ephraim, ils ont dit, allez, c'est bon, c'est parti. Et Béné Yehuda, ils ont dit, non, on doit attendre. Le Mashiach. On doit attendre que ce soit clair. Ce que Manitou va expliquer en disant les Chilonim face aux religieux, les Cholonim disent que la Géoula est le Bédéach Teva, le Yala, il faut construire le pays. Il y en a d'autres qui disent non, il faut attendre la venue du Mashiach.
Pas forcément les
Cholonim. C'est ça ? Oui, et pas forcément. Enfin, ni l'un ni l'autre. Mais qui saurait donc au final, le matin, les choses sont claires. L'eau, bam. Bechorava, Vebako Amaim, Ravo, Bene Israël, Betoch Hayam, Bayabasha, Vaemaim, Laem, Choma, Minam, Omismolam. L'eau leur fait une muraille à leur gauche et à leur droite et à leur gauche. Vaïrdefou Mitzrayim va'avou achareem kol sous richbo parasha v'tochayam. Vaï ba'ashmoret ha'boker v'ashkef Hashem al machane Mitzrayim ba'amud esh v'anan v'yam et machane Mitzrayim v'yasar et ofen markevotav v'yinageu b'chvedut v'yomer Mitzrayim anusa mipenei Yisrael ki Hashem nilcham lahem b'Mitzrayim. מה הסיפור? Alors, les Israélites sont avancés, machin. Finalement, Pharaon poursuit et il voit que ça marche pas. Les chars s'embourbent. À ce moment-là, Makara.
C'est horrible.
Ah, c'est terrible.
Situation terrible.
Les chars s'embourbent. Dieu, il fait son boulot. Mais il y a un autre problème. C'est quel est le problème? Les Bnei Israël, ils n'avancent pas. Imagine-toi la scène. Les Bnei Israël, ils sont en plein milieu. Ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas, ils ne veulent pas avancer. Et les Égyptiens, ils les poursuivent. Et Dieu, il essaie de les retenir, tu vois. Mais pourquoi tu n'avances pas? Les Bnei Israël n'avancent pas. Ils disent à Moshe, l'eau. L'eau n'a avor. Lama, les Bnei Israël, ils disent à Moshe, l'eau n'a avor. Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Azak, comment vous? Eh oui.